of a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. John Lyndon à la présentation de cette émission qui est mise en onde par Georges Léonard Sagnon avec l'assistance de Tchèque. Et puis à la console, on a mon ami Souleyman Tarawale. Ok, donc on commence tout de suite. Donald Trump a apporté mercredi son soutien à une refonte du système d'immigration légale aux États-Unis. La proposition concoctée par les sénateurs républicains Tom Cotton et David Perdue a vocation à donner la priorité aux personnes parlant anglais et va plafonner à 50 000 par an le nombre de réfugiés obtenant l'autorisation de résider aux États-Unis. Cette législation représentera la plus importante réforme de notre système migratoire depuis un demi-siècle, a commenté M. Trump à la Maison-Blanche, remerciant les deux sénateurs d'avoir élaboré ce projet historique et très crucial. En effet, les deux sénateurs républicains cités plus haut veulent réformer l'immigration légale aux États-Unis en réduisant le nombre d'immigrés peu qualifiés et en mettant en place donc un dispositif basé sur le mérite et la compétence. Que pensez-vous de ce projet de réforme de la loi sur l'immigration légale aux États-Unis? C'est autour de cette question que s'articule l'Amérique et vous de ce vendredi. Pour participer, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur Facebook et vos numéros également et nous vous appellerons. Vous pouvez suivre cette émission également en direct sur www.voafrique.com. Pour nous accompagner dans cette émission, il me semble que nous avons déjà Henri Désiré Nzosi depuis la Belgique. Henri, bonsoir.
Bonsoir également à toute l'équipe de La Voix de l'Amérique ainsi qu'aux auditeurs.
Voilà. On a également Mohamed Sama qui est psychologue de formation et immigré au Canada. Mohamed, bonsoir.
Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Ravi de vous joindre ce soir.
Merci de nous joindre. Effectivement, on va commencer. On parlait donc de ce sujet. Il s'agit des deux sénateurs républicains qui ont introduit un projet de loi visant à réformer l'immigration légale aux États-Unis en réduisant le nombre d'immigrés peu qualifiés et en mettant en place un dispositif qui sera basé sur le mérite et la compétence, ce qui semble déjà être le cas au Canada. Alors, on va commencer par Mohamed Sama. Déjà, votre point de vue sur ce que les États-Unis sont en train de vouloir faire et sur ce qui se passe déjà chez vous, où vous vivez.
Oui, par rapport à la nouvelle loi qui est en émergence actuellement, comme vous le dites, pour les États-Unis, bon, je pense que ce serait une bonne chose pour pouvoir maîtriser les flux et pouvoir améliorer la qualité de l'accueil de ceux qui demandent l'asile sur leur territoire. De par mon expérience ici au Canada, c'est ce processus que nous avons suivi. C'est vrai que ça prend le temps que ça prend. Ça prend les démarches administratives et financières que ça prend. Mais une fois sur place, vous êtes pris en charge. Le côté humain est beaucoup vraiment valorisé et il y a une assistance de bout en bout pour vous accompagner dans votre orientation professionnelle et dans la limite de vos capacités professionnelles aussi. Donc, tel que c'est dit, ça peut avoir des insuffisances. Déjà qu'ils ont des critères déjà définis, mais au bout, ça va un peu maîtriser les flux et la sélection. Bon, mais disons que ça réduit du coup la chance de d'autres personnes aussi qui n'ont pas forcément d'être qualifiées pour y arriver, parce qu'il y a des professions, il y a des métiers aussi qui demandent pas trop de qualifications pour pouvoir les pratiquer. La preuve en est aussi ici que le modèle canadien n'est pas à 100% aussi efficace que ça, parce qu'il y en a aussi qu'on sélectionne sur la base de leurs qualifications professionnelles. Et sur place, ils ne sont pas employés à leur juste valeur. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité très triste par moment.
Voilà. Donc, on va développer tout ça au cours de cette émission. Je vais passer la parole à Henri Désiré Nzosi. Henri, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette actualité ici aux États-Unis et de manière générale, depuis que Trump est là, comment il essaie de réformer l'immigration?
Bah, une fois de plus, il s'adresse en fait à son électorat, ce qui est tout à fait, je dirais, légitime, et ça répond à une nécessité de vouloir contrôler les flux migratoires. Mais si vous voulez, ici en Europe, par exemple, il y a un paradoxe avec d'un côté le fait que bon, l'Europe est une destination extrêmement prisée en matière d'immigration, et ce évidemment dans un contexte de manque de main-d'œuvre, etc. Et puis de l'autre côté, cette même Europe continue à inscrire l'immigration dans une sorte de registre prioritaire de la dissuasion et de la lutte contre l'immigration clandestine. Alors, aux États-Unis, on constate aussi un décalage, et cela est tout à fait rapporté par l'actualité récente, un décalage, je dirais, entre, d'une part, les impératifs étatiques devenus européens, hein, en matière de maîtrise des frontières, etc., avec l'insertion, avec une compétition mondiale de plus en plus importante, et puis en même temps, une frilosité, et ça c'est surtout les électeurs de Donald Trump, hein, une frilosité vis-à-vis des politiques d'accueil, ainsi que la manière la plus efficace de contenir ces flux migratoires. Tout ça fait qu'au final, on a effectivement une politique de plus en plus restrictive. Je voudrais juste rebondir par rapport au Canada pour quand même apporter un élément important, c'est qu'en fait, chaque année, le Canada adopte un plan des niveaux d'immigration qui fixe un quota à atteindre en termes d'accueil. Juste un chiffre, pour cette année, par exemple, 300 000 personnes sont attendues sur le sol canadien, ce qui fait que ce pays reste malgré tout ouvert, en dépit des difficultés qui ont été évoqué par notre ami.
Voilà, donc nous a rejoint dans cette émission Bakary Tandja, qui est militant de droits des immigrants depuis New York, ici aux États-Unis. Bakary, bonsoir.
Bonsoir, Lyndon. Comment
alors,
ça va?
Ça va très bien, merci. Donc, on parle donc de ce projet de loi, puisqu'il faut le dire, il faut souligner cela à nos auditeurs. Il s'agit simplement encore d'un projet de loi. Rien n'est fait, rien n'est arrêté. C'est une idée qui circule qui a été proposée par deux sénateurs. Alors, vous, Bakary Tandja, vous militez donc pour les droits des immigrants. Il me semble qu'à New York, c'est un projet qui n'est pas du tout accepté, qui ne va pas passer, selon vous.
Merci pour cette question importante, parce que quand il s'agit de l'immigration, que ce soit en tout cas au niveau national, au niveau international, il y a une crise internationale qui sévit. Bon, par rapport à cette proposition de loi, nous pensons que nous sommes convaincus que cette proposition ne pourra pas passer, parce que l'intention est déjà mauvaise. Si on le place dans un contexte beaucoup plus large, en faisant la comparaison avec la proposition de loi qui avait été faite par ce qu'on appelait le gang des 8, 4 républicains et 4 démocrates en 2013, qui avait proposé une loi qui était passée au niveau du Sénat, 68 voix contre 32, qui a échoué au niveau de la Chambre des représentants. Donc, par rapport à ça, bon, nous assistons à deux républicains qui négocient dans une chambre totalement hermétique pour régler un problème aussi complexe que l'immigration ici aux États-Unis. Tout le monde est d'accord que l'immigration est il y a une crise. Il y a une urgence de fixer ce problème, mais il faut tenir compte de toutes les dimensions et inviter toutes les compétences à un débat public pour pouvoir formuler une politique d'immigration qui va répondre aux attentes.
Alors, Bakary, je vais rebondir sur ce que vous dites. À votre avis, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les États-Unis, selon ce projet de loi, veulent sélectionner ceux qui viennent aux États-Unis en termes de qualité, mais pas de quantité. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut savoir parler anglais, il faut être financièrement indépendant et puis pouvoir travailler quand on arrive ici. Ce n'est pas toujours le cas quand on n'est pas qualifié.
Bon, d'abord, il y a beaucoup de gens qui viennent ici, par exemple, ceux qui viennent en tant que réfugiés ou bien qui passent sur le territoire, demandent l'asile politique pour des raisons de persécution, pour des raisons de guerre civile. On ne peut pas demander à ces gens-là de venir, de débarquer avec des millions pour se prendre en charge. C'est fondamentalement en contradiction avec l'esprit et la lettre du concept même de réfugiés et d'asile politique. Donc, par rapport à ça, ce que nous demandons, c'est véritablement une réflexion profonde. Si nous considérons ce cas d'espèce, par exemple, cette proposition de loi est une proposition de loi discriminatoire.
Voilà.
Et qu'il y a même un élément qui nous concerne particulièrement, l'élimination systématique de la loterie Green Card.
Voilà.
Vous le savez, la majorité des Africains qui viennent ici
viennent par le biais de la carte verte de la loterie américaine. Vous restez avec nous. On va prendre juste un auditeur au téléphone. Il s'agit de Roland Kwelome depuis le Bénin. Roland, bonsoir.
Oui.
Vous dites que c'est une peine perdue.
Oui, c'est une peine perdue en ce sens où actuellement. Les immigrés actuels, c'est malgré eux, les immigrés, c'est malgré eux. Les gens ne sont pas entrés dans le pays, ils sont confrontés à des affrontements de violence permanente. Mais dans le cas de la Libye, du travail actuel, les gens ne sont pas en sécurité. Hein? Ils ne vont pas immigrer parce qu'ils vont immigrer, c'est malgré eux. C'est malgré eux. Par exemple, la demande de Dieu, a dit quand ils vont réformer, c'est la Libye. Ils ont fait quoi avec le concept de la mondialisation? Par exemple, la PDG encore, il faut qu'on aille au fond du sujet d'abord avant de réformer.
Voilà.
Le sujet n'est pas encore là. C'est pas encore là. Réformer, je n'ai pas encore corrigé le tout. Il faudrait que l'Amérique aide les autres parties du monde à avoir une stabilité politique. Là, on peut réduire l'immigration.
Tout à fait.
J'ai commencé par entendre ce mot-là. À partir de l'année passée, il n'y avait pas d'idée comme ça.
Voilà, merci beaucoup Roland pour votre contribution. Henri Désiré, est-ce que les États-Unis ne sont pas là en train de rompre avec une tradition de pays d'immigrants? Et est-ce que en Europe, il y a des cas qui ont réussi, des cas de d'immigration sélective ou de politique telle que celle que les États-Unis veulent appliquer et qui sont déjà au Canada?
Bon, il faut peut-être rappeler d'abord que les États sont souverains en matière de flux migratoires. En Europe, c'est une très longue réflexion qui a commencé dès 1957 au moment du traité de Rome et qui s'est poursuivie jusqu'à il n'y a pas très, très longtemps, avec notamment cette pierre angulaire qui est le principe de liberté de circulation, notamment des travailleurs. Alors, il faut peut-être rappeler aussi que, en fait, depuis 2008, l'adoption par le Parlement européen d'une directive dite retour, ainsi que du pacte européen, a permis petit à petit, finalement, de mettre sur pied une politique d'immigration, je dirais, communautaire, avec un certain nombre de points importants, comme l'organisation de l'immigration légale, la lutte contre l'immigration irrégulière, etc. Mais avec un souci, néanmoins, c'est celui, à terme, de permettre aux États, individuellement, de choisir le type d'immigration. Et c'est là que l'on bascule effectivement dans la notion d'immigration choisie, c'est ce type d'immigration où le pays d'accueil choisit finalement ses immigrants, et cela évidemment dans le but de privilégier les travailleurs qualifiés qui pourrait, selon les cas, apporter un plus à la situation économique du pays et éviter que les immigrants viennent profiter du système. C'est un peu cette arrière-pensée-là qui a guidé, à mon sens, les sénateurs républicains, qui évidemment s'apprêtent à soutenir Donald Trump dans cette nouvelle loi qu'il s'apprête à voter. Mais c'est malheureusement, il faut bien le dire, dans l'évolution des choses, avec bien évidemment cette nécessité de faire en sorte que les travailleurs les plus qualifiés soient ceux qui soient le plus utiles à l'économie finalement, et par opposition à ceux qui sont jugés plutôt dans une posture de profit par rapport à un système.
Voilà, Mohamed Sama, vous êtes au Canada, est-ce que, déjà dites-nous, comment vous êtes arrivé là-bas, est-ce que vous vous sentez intégré, est-ce que vous avez l'impression de bénéficier du système ou alors de mériter ce que vous recevez parce que vous êtes qualifié?
Oui, je pense que mon intégration a été parfaite, mais c'est dû au fait que j'ai suivi la méthode sélective. Donc, pour revenir, vous voyez que c'est une stratégie que Nicolas Sarkozy avait déjà évoquée, qu'il a reçu tous les coups de la part des Africains, mais vous voyez que c'est en train de se mondialiser, là. Donc, ici, moi, je pense que je suis intégré par le fait que j'ai été sélectionné. Ça a pris le temps qu'il faut, mais sur place, toute l'administration est à votre disposition pour vous accompagner en matière d'orientation professionnelle et vous mettre en contact avec des employeurs éventuels. Et moi, actuellement, j'occupe un poste, en fait, selon ma formation, pas de psychologue, mais je suis en fait un psychologue dans les ressources humaines.
Voilà.
Moi, je peux dire que je suis intégré.
Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes intégré simplement parce que vous êtes qualifié? Est-ce que quelqu'un d'autre qui n'a pas votre qualification aurait eu les mêmes chances?
Oui, mais oui, dans un domaine qu'il peut être utile. Au Canada, ici, c'est ça. Donc, même s'il n'est pas qualifié, s'il est sur le territoire, s'il réussit à avoir, en fait, il a eu une demande d'asile qui a été acceptée, tout de suite, il sera intégré. Il est pris au même titre que les autres, mais c'est ce processus qui est un peu compliqué, qui prend du temps par rapport à quelqu'un qui n'est pas qualifié.
Voilà, on va prendre quelques auditeurs au téléphone. On va commencer par Diallo Tierno Oumar. Diallo, bonsoir.
Et bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs.
Voilà, en quelques mots, votre contribution. Vous dites que vous êtes contre l'immigration, quelle que soit la forme et les intérêts.
À mon avis, oui, je suis contre personnellement parce que l'Afrique est victime de ça. Tous nos jeunes talentés ont quitté le continent pour aller s'installer définitivement chez les autres. C'est tout à fait anormal, à mon avis. Imaginez qu'aujourd'hui, même les boursiers qui quittent l'Afrique pour aller étudier chez les Blancs, chez les Occidentaux plutôt, comme disait un certain sociologue de mon pays ici, il me disait, lorsqu'il a eu son bac, il a eu de bourse pour aller, c'était 50 jeunes, mais parmi les 50 là, jeunes très talentueux, il n'y a eu que 5 qui sont revenus. Parmi les 5 là encore, les 3 sont repartis pour s'installer aux États-Unis, au Canada, en France, etc.
Voilà.
L'Afrique a été victime pendant plusieurs années de
et ça semble continuer. Tout à fait. Alors,
oui.
Merci.
Je disais, c'est maintenant là, c'est la nouvelle génération d'aujourd'hui même qui finance des millions pour aller s'installer là-bas définitivement.
Voilà, merci Diallo. Désolé de vous couper. Hassan Omar Boulalé, bonsoir. Hassan, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, votre contribution en quelques mots.
Moi, je crois que c'est une décision qui est choquante pour nous. D'abord parce que nous, on veut émigrer au Canada ou aux États-Unis pour avoir plus de connaissances et de savoir-faire pour revenir dans nos pays, en Afrique. Mais cette décision, c'est une décision surtout politique, avec la décision de Trump de diminuer et d'éradiquer l'immigration, surtout clandestine. Donc il y a un problème et je fais confiance aux institutions américaines qui peuvent repousser et rejeter cette décision. Voilà ce que je voudrais dire.
Voilà. Apollinaire Seriabé, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Voilà. Vous trouvez plutôt que c'est une bonne chose et que ça permet aux jeunes immigrants qualifiés africains de bénéficier de riches expériences?
Effectivement, comme je l'ai souligné dans mon commentaire, À mon avis, c'est une bonne chose. D'abord, les immigrants africains qui vont aller aux États-Unis vont avoir vraiment des expériences. Et avec ces expériences acquises, là, l'Afrique pourrait en bénéficier.
Voilà. Merci pour votre contribution. Henri et Bakary, je commence par Henri. Henri, on a eu deux réactions au téléphone tout à l'heure. Diallo, par exemple, pense que l'Afrique est en train de se vider de ses cerveaux, en quelque sorte, et que ce serait pas une bonne chose que ces jeunes quittent le continent pour venir aux États-Unis ou en Occident. Et Apollinaire, lui, pense plutôt que c'est une bonne chose parce que ces jeunes viennent acquérir une expérience qui va servir au continent. Qu'est-ce que vous en pensez, Henri, tout d'abord?
Oui, faute de perspective sur place, il y a effectivement cette tentation de partir. Les élites, par exemple, qui ne s'estiment pas toujours servies dans leur pays, qui ne leur offrent rien, se proposent justement de franchir le pas sous l'effet de la mondialisation. On peut oublier que c'est un phénomène extrêmement important, parce que les pauvres, par exemple, ont connaissance de la richesse du Nord, et savent que si cette richesse ne vient pas à eux, bah, c'est à eux de faire l'effort d'aller vers cette richesse, grâce à des réseaux, évidemment, qui les mettent en mouvement. Donc, cette question-là implique l'inclusion et donc de nombreux défis qu'il faut relever, effectivement, parce qu'il n'y a rien à faire. Cela fait partie d'une tendance contre laquelle il sera de plus en plus difficile de combattre. C'est pour cette raison que certains pays, comme les États-Unis, essayent de rejoindre ceux qui ont décidé d'opter pour une immigration choisie.
Voilà. Bakary Tandja, est-ce que le continent n'est pas en train de se vider de ses cerveaux? Parce qu'on voit aussi ici aux États-Unis beaucoup d'Africains qui n'arrivent pas à s'intégrer, ils n'ont pas de travail. Même quand ils ont des diplômes en Afrique, ils sont obligés de venir recommencer et c'est du temps qui se perd.
C'est tout à fait exact. Et moi, ma position ici dans notre organisation me permet en tout cas d'avoir une image assez globale de la situation. Et comme vous le savez, selon les statistiques ici aux États-Unis, les immigrants africains ont le taux d'universitaire le plus élevé parmi toutes les autres communautés d'immigrants. Bon, d'ailleurs, j'avais fait une interview avec la télévision de la Voix de l'Amérique concernant la situation des immigrants. Bon, je n'ai pas hésité à dénoncer cette situation, par exemple en faisant référence à la mairie de New York, qui est une mairie progressive. Bon, malgré, en tout cas, la capacité qu'il y a, le nombre d'Africains est presque inexistant. Et de plus en plus, d'ailleurs, on parle du gaspillage de cerveau par rapport à l'Afrique. On dit ceux qui viennent ici, on parle de fuite de cerveau, mais les Africains qui sont ici, ils ne sont pas utilisés à grande capacité. Même lorsqu'ils arrivent à s'intégrer, bon,
voilà.
Vraiment, à partir de certains niveaux.
Merci, cas, merci Bakary. Merci Bakary. On va faire juste un dernier tour de table en 10 secondes chacun. Cette nouvelle loi, si elle était adoptée, va annoncer, je vais dire, la mort de la green card, de la loterie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Henri, c'est une bonne ou une mauvaise chose?
De répondre à cette question pour l'instant, je pense qu'il faut donner du temps au temps. Mais je crois que ceux qui sont déjà sur place aux États-Unis pourront mettre à profit cette période pour poursuivre leur processus d'intégration.
Voilà, Mohamed Sama, si cette loi est adoptée, puisqu'elle est encore un projet, la loterie américaine, ce serait fini. Est-ce que c'est bon ou mauvais?
Pour moi, je vois simplement qu'il y a deux camps dans ce système-là. Il y a ceux qui réfléchissent comment utiliser les cerveaux de ceux qui viennent de partout,
voilà.
C'est-à-dire exploiter, faire travailler, faire bouger, donner quelque chose à faire aux gens qui ont quelque chose dans la tête.
Voilà, merci.
Et il y en a aussi qui réfléchissent à comment les chasser de ces œufs. Et
merci,
comme
merci.
Je veux rejoindre un peu pour dire que personne.
Merci Mohamed, on est arrivé.
Personne ne veut quitter son.
On est arrivé au terme de cette émission. Georges Léonard Sagnot était à la production avec Tchèque et puis mon ami Suleiman Sarawale était à la console. Je vous laisse en compagnie de Anastasie Tudiesh pour les informations. John Lyndon, bonne soirée.